des livres plein les oreilles. Et c'est immanquable, tout le monde a le sourire. Cet indicatif-là, c'est immanquable. Vraiment, tout le monde a le sourire fendu d'une oreille jusqu'à l'autre. Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Seil en votre compagnie. Vous êtes sur les ondes de Canal M et c'est une nouvelle fois des livres plein les oreilles pour vous accompagner, surtout pour vous partager toutes sortes de belles lectures à vous mettre entre les deux oreilles. Et aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. Je pourrais l'appeler « Comment donc, tiens, pour paraphraser un livre ». Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'USQLA sans jamais avoir osé le demander. Alors, on saura tout aujourd'hui sur les secrets du service québécois du livre adapté. Vous savez maintenant, je vous le dis, je vous le répète à toutes les semaines, ce service est gratuit. Il vous permet de lire absolument tout ce que vous désirez lire, évidemment tout ce qui est enregistré, entre autres par les 350 bénévoles ici de chez Vues et Voix, mais aussi par d'autres organismes dont nous parlons éventuellement à l'occasion, lorsque vous voulez qu'on vous parle de livres qui sont faits chez eux. Alors voilà, aujourd'hui à l'émission, Gérald Cousineau, mesdames Chloé Barry et Sylvie Foucreau du service québécois du livre adapté, et puis également Gérard Cyr, lecteur bénévole, que nous retrouverons en seconde partie de l'émission. Et on commence comme on le fait toujours avec une personne qui en mange de ses livres audio. On va l'écouter. Cher Gérald Cousineau, comment allez-vous?
Cher Clotilde, je vais pas mal pour un homme de mon âge, pas mal du tout.
Ça, c'est quelque chose que je réponds souvent. Comment ça va, Clotilde? Oh, pour l'âge, faut pas se plaindre, ça pourrait être pire.
Je salue ces dames du SQLA, oui. Bien sûr.
Hein, donc, vous avez retenu les noms, je vous les redonne. Madame Chloé Barry, qui est directrice de l'accueil et du prêt au SQLA. Et Sylvie Foucreau, Madame Foucreau, elle est technicienne en documentation. Alors, voyez-vous, on va apprendre certainement beaucoup de choses aujourd'hui. Et vous, Gérald, de quoi voulez-vous nous parler?
Oh, j'ai peur de détonner un peu dans le paysage aujourd'hui, parce que
mais
j'ai
non.
Un livre très grave... au menu, il s'agit d'un court essai d'Éric oui. Fotorino, l'ancien directeur du journal Le Monde, et le livre s'appelle « Suite à un accident grave de voyageur » paru en 2013, et on le trouve au SQLA.
Oui.
Bah, c'est quoi le prétexte de ce petit livre? C'est qu'en septembre 2012, il y a trois personnes qui se sont jetées sur les rails de ce que vous appelez en France le RER.
Oui, c'est ça, qui est le train pour la grande banlieue.
Voilà. Donc, en quelques jours, trois personnes se jettent sur les rails, pas très loin de chez Éric Fotorino, pas très loin de sa maison. Alors évidemment, on n'en parle pas. De quoi va-t-on parler d'abord? C'est que le trafic est perturbé, bien sûr. Donc, l'auteur va faire une petite enquête et se rend compte que l'accent est toujours mis sur les retards des transports en commun, sur le fait que ça a dérangé des milliers de personnes. Mais très peu de choses... et dit sur les suicidés eux-mêmes, sur les personnes elles-mêmes. Alors, donc, il mène sa petite enquête, il fouille dans les faits divers, mais il n'apprendra pas grand-chose, parce que, bien sûr, il n'est pas de la famille des personnes disparues, oui. Et là, c'est le silence. Mais quand même, ce petit livre nous apprend que nous avons l'art, et on sait qu'en 2015, on l'a mené très loin, l'art de l'euphémisme, on l'a poussé très loin. Déjà, d'ailleurs, c'est Fotorino qui le cite, Camus disait « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde.
Oh » oui.
Or, jamais, en France, ou même ici dans le métro, on ne va parler de suicide. Ici, on va dire un incident.
Bon. Oui.
En France, on ne parlera pas de suicide non plus. Alors, on va parler d'un accident grave, des choses comme ça. Donc, on ne nomme pas la chose, on entoure la chose pour ne pas, justement, que cette chose-là devienne contagieuse. Enfin, idée curieuse, bon, mais on l'énonce quand même. Donc, M. Fotorino fait sa petite enquête, voit que beaucoup de gens sont dérangés. Il cite même un site web incroyable, mais vrai, où les gens commentent les suicides sur les rails du RER. Et là, vous avez de tout. Hein.
Oh,
vous
oui.
avez le pour et le contre. Il y a même des gens qui vont dire, mais que c'est désespéré, il devrait aller se supprimer ailleurs.
Ah oui, oui.
Alors que d'autres essaient de comprendre. Mais justement, qu'est-ce que ces gens-là ont voulu nous dire avant de poser, ou en posant ce geste-là? Ben, comment savoir? Comment savoir? Alors, Fotorino, oui, il va, en fait, compte rendre hommage à ces morts oubliés, à ces morts sans visage. Je pense qu'on peut prendre l'expression en sens littéral. Donc, il va essayer de rendre hommage en essayant de voir pourquoi ces gens-là ont fait ce geste-là, pourquoi ils se confrontent ainsi à notre indifférence. Car, évidemment, ce sont des choses qu'on ne veut pas voir. On se détourne même. Et il va même avoir cette belle phrase, « S'il se jette ainsi au vu de tous, c'est qu'il se croit invisible. » En fait, ils ne sont pas invisibles. C'est nous qui ne voulons pas les voir. Oui. Et il va dire aussi, « Il y a des voyages autour de soi d'où on ne revient jamais. » Alors, ces gens-là, heureusement, rares, bon, ça n'arrive pas tous les jours.
Ça n'arrive pas tous les jours.
Ces gens-là, donc, ont décidé de mettre fin à leur vie. On ne sait pas vraiment qui ils sont, on ne le saura peut-être jamais, mais ils sont là quand même. Et qu'est-ce qu'un retard à comparer à une vie?
C'est terrible.
Qui, Clotilde, parmi nous, n'a pas... Je pense à Montréal, par exemple. Qui n'a pas ragé quand un incident dans le métro nous a retardé une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure?
Moi par exemple, j'ai ragé comme tous les autres.
Moi aussi, je l'ai fait. Eh bien, est-ce qu'on a pensé à la personne qui a commis un acte aussi terrible? Rarement. On est tellement pressé aujourd'hui, tellement indifférent. Et d'ailleurs, Fotorino va parler de nous comme des bons hommes de givre. Nous sommes de givre face aux autres.
Mais est-ce qu'on est bousculé, Gérald? Imaginez quelqu'un qui tombe sur ce petit livre-là, et qui, parce que je vous connais un petit peu, Gérald, et je sais que quand même, vous n'êtes pas un homme sans... Je veux dire, vous êtes très, très empathique, de façon générale. Bon. Mais imaginons que ce livre-là tombe entre les mains d'une personne qui ne l'est pas, ou même qui n'a jamais pris conscience qu'effectivement, quand on parle d'un accident, il y a un décès, il y a un drame, et il y a une vie qui vient de s'achever par choix personnel. Est-ce que ce livre bousculerait ces personnes-là?
Je dirais plutôt que ce livre-là peut déranger.
Déranger.
C'est comme un pari. Ou bien il va vous déranger, vous agacer profondément, et vous allez vous en ficher, ou bien il va vous faire réfléchir. Et je pense que c'est le pari qu'a tenu Fotorino, et il veut nous faire repenser à ces personnes-là, parce qu'on a tendance à les oublier très vite. Il veut qu'on y repense, et que sommes-nous, nous devons? Finalement, il parle même d'une sorte de lâcheté collective. Il veut vraiment briser le silence, briser notre indifférence. Et je pense que pour ça, le livre, d'ailleurs il est très court, vaut vraiment la peine d'être lu. Car il n'y a pas il n'y a pas que des joies dans le métro. Non, il y a rarement de la joie dans le métro. Si vous regardez le visage des gens dans le métro, on a tous l'impression qu'on se méfie les uns des autres. Il rappelle d'ailleurs que dans le mot humain, il y a le mot main, comme une main qu'on devrait tendre à l'autre. Mais il y a cette terrible absence de chaleur humaine dans les transports en commun. Chacun est emmuré dans sa solitude. Et voilà, ce genre de choses.
Puis on pourrait, je pense, élargir d'ailleurs, au métro, quand on regarde en ce moment tout ce qui se passe.
Mais on pourrait élargir, effectivement.
On pourrait élargir un peu ce débat-là.
C'est le propre des grandes villes, et Paris, bien sûr, est une ville tentaculaire. Alors la chose se produit plus souvent qu'ici. Oui.
Mais c'est vrai que le métro représente un espèce de microcosme de la société où les plus riches côtoient les plus pauvres, parce qu'il y a des gens riches, qui prennent le métro. Il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, en tout cas, disons, des gens qui ne manque de rien. Il y a des gens malades et des gens en santé. Il y a des gens qui ont leurs yeux et d'autres qui ne l'ont pas. C'est un regard. Moi, c'est pour ça que j'ai été ravie quand vous m'avez dit que vous vouliez parler de cet essai qui, rappelons-le, n'a que 63 pages. Donc c'est une heure de lecture à peine.
1h25. J'ai hésité.
1h25.
Parce que je savais bien que c'était un sujet grave, mais j'aime bien parfois parler d'un livre qui dérange.
Mais absolument, c'est absolument. Juste avant qu'on se quitte, quelques mots de l'humanité. C'est sorti le 15 avril 2013, un extrait d'une critique qui disait « C'est un livre d'une minceur extrême, à l'image de la trace laissée par ceux dont il est question. »
C'est vrai.
Ni document, ni roman, seulement une manière de constat. Éric Fotorino cherche ici à fissurer le silence, celui de ceux qui sont morts et celui des vivants, pratiquant avec talent l'écriture comme une mise en alerte.
Et il n'y a aucune morale là-dedans. Il ne moralise jamais.
C'est ce que j'avais lu effectivement aussi. Si vous me le permettez, j'ai un tout petit extrait ici. Si au moins ces accidents pouvaient faire réfléchir à la détresse grandissante qui règne autour de nous, même pas. Ils n'ont qu'à crever en cachette tous ces emmerdeurs qui ne supportent plus d'être malheureux.
Voilà.
Écrit le bien nommé Dépité. C'est un monsieur qui s'appelle Dépité.
Il porte bien son nom.
Ah oui, oui, oui. Et il y en a un autre qui dit non, il n'y a rien d'égoïste dans le suicide, juste une souffrance qui devient insupportable.
Voilà.
Non, Gérald de Cousineau, mais écoutez, on n'est pas là pour rigoler tous les jours non plus. Que voulez-vous ? Il n'y a pas, que des livres heureux. Et
non,
y a
mais
pas...
c'est une réalité.
C'est une réalité.
Voilà.
Et je vous remercie, Gérald Cousineau, de nous en avoir parlé aujourd'hui. On se retrouve très bientôt sur nos ondes, je l'espère.
Je l'espère bien aussi.
Je vous embrasse. Tiens.
Au revoir, Clotilde.
Bonne journée. Merci. Alors nous y voilà. Je suis tellement contente de vous accueillir ici, Sylvie Foucreau. Oui, Foucreau. Hein. Est-ce que vous prononcez plus le que Fouquereau?
Fouquereau.
Fouquereau.
Oui.
Non, bah alors
oui.
Il est hors de question que je sais pas pourquoi. Mais Fouquereau, je vais mieux le dire. Et puis Chloé Barry aussi. Alors Chloé, je rappelle que au Service québécois du livre adapté, vous êtes directrice à l'accueil et au prêt.
C'est-à-dire que je suis directrice de l'accueil et du prêt de BANQ, au sein duquel il y a les services adaptés où se trouve le Service québécois
d'accord,
du livre adapté.
D'accord. Pardon pour
tout
cette
ça,
d'accord.
C'est tout un ensemble.
C'est
finalement.
Ça exactement parce qu'il faut rappeler évidemment que ce service dépend éminemment de BANQ. Alors donc vous n'êtes pas spécialisée sur le service adapté, vous êtes en général donc directrice de l'accueil et du prêt. J'ai bien compris. Sylvie Fouquereau, nous nous sommes rencontrées à l'occasion d'une pièce de théâtre qui était jouée par hasard.
Oui.
Et vous savez que Gérald, qu'on vient d'entendre, était un des comédiens.
Un des comédiens de la pièce.
Vous
ben,
le saviez.
C'est d'ailleurs
Monsieur
Cousineau qui m'avait invité.
Ah bon, ben, voyez-vous.
À la pièce. Puis, on s'est rencontrés à l'entrée.
Bon. Oui. Alors encore une fois, merci d'être là. C'est vrai que nous ici, on parle du SQLA, du moins à cette émission. Des livres plein les oreilles, qui s'est appelé à livre découvert jusqu'à quelques mois d'ici, donc jusqu'à la fin de la saison 2014-2015. Mais finalement, je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui, d'abord, il y en a qui ignorent encore, malheureusement, que cela existe, ce service si merveilleux. Puis, il y en a d'autres qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, qui nous posent encore souvent à nous des questions. Alors, je me suis dit, ce qui serait formidable, ce serait de les inviter, d'abord, qu'ils puissent voir l'organisme en entier, c'est ce que vous avez fait, que vous fassiez le tour. Parce que quand on n'est pas rentré ici, on imagine mal les 13 cabines, les gens dans ce petit territoire là qui lisent les livres avec les moniteurs en face. J'imagine que ça a dû vous toucher beaucoup, vous qui travaillez directement, Sylvie Fouquereau.
Oui, tout à fait. Une belle visite. Merci beaucoup. Et puis, sûrement que c'est intéressant de voir, nous, on travaille avec le produit fini. Nous, on fait la diffusion du livre adapté.
Oui,
alors
oui.
Là, j'ai eu le privilège... d'assister vraiment à la cuisine de tout ça.
Oui.
Comment se produit, les personnes impliquées aussi. J'ai beaucoup apprécié aussi le niveau de la sensibilité que les gens expriment par rapport au travail des bénévoles qui évoluent ici à Vues et Voix. Puis ça, ça m'a touchée en quelque part. Puis c'est vraiment un bravo.
Merci beaucoup. Puis, en qualité de technicienne, quel est votre rôle? Vous êtes technicienne de documentation au SQLA.
Oui.
Quel est votre rôle
exactement? Moi, je suis directement dédiée à l'offre de référence pour les collections adaptées. Alors, avec trois de mes collègues, on est la porte d'entrée au SQLA. Alors, on reçoit les appels de nos clients. C'est sûr que la porte d'entrée se fait à 95% et même plus par téléphone.
Oui.
Notre clientèle et nos collections sont accessibles à travers toutes les régions du Québec.
Oui.
Et puis, toute personne aussi qui vive avec un handicap perceptuel.
Oui, ça, on va en parler justement.
Ça, vous le saviez.
Oui, mais c'est ça. Mais il y a parfois, c'est un petit peu...
On va élargir.
Voilà, on va comme élargir parce que parfois, c'est un petit peu... Est-ce que vous êtes tous non-voyants ou partiellement voyants, tous les gens qui travaillent?
Non. Dans l'équipe du SQLA, vous avez des personnes qui ont des handicaps visuels, mais il y a des personnes
aussi
voyantes qui évoluent là, dans le service. On est une équipe quand même de 12 personnes.
12 personnes, d'accord. Je peux me permettre de dire que vous-même, vous êtes partiellement non-voyante.
Oui,
c'est ça. Et que vous utilisez vous-même des livres audio.
Les livres audio, oui. Bon. Je suis quand même capable de lire encore l'imprimé, mais comme je disais, ça me fatigue. Puis j'ai comme... étant directement si près des collections, oui. puis admissible aussi au service, oui. ben j'ai comme développé le confort de placer un CD ou télécharger des fichiers puis faire l'écoute, me faire raconter des histoires.
Ce que nous aimons tellement faire. Oui. oui. Chloé Barry, je me tourne oui. vers vous. Alors, on dit souvent, nous ici, parce qu'on trouve une formule relativement courte, que le SQLA, les gens qui peuvent en bénéficier sont des gens qui sont partiellement non-voyants ou totalement, mais...
C'est plus large que
c'est
ça.
Plus large que cela.
C'est plus large que ça et c'est pour ça qu'au fond, c'est intéressant que le SQLA soit intégré. Donc, dans les services adaptés, où on répond finalement à tout besoin d'adaptation des services et des collections de BANQ
oui.
pour quiconque a besoin que quelque chose soit adapté finalement.
Oui.
Parce que ça permet vraiment d'élargir. Une de nos clientèles les plus croissantes en ce moment, ce sont les gens qui souffrent de dyslexie grave, donc de troubles d'apprentissage de la lecture, qui sont des gens qui ne pourront jamais atteindre un niveau de confort dans la lecture de l'écrit imprimé. Et donc, eux sont parfaitement admissibles aux collections du SQLA et c'est une clientèle qui est vraiment en forte croissance en ce moment.
Les jeunes aussi?
Beaucoup de jeunes, effectivement, dans les dyslexiques. Ce sont parce qu'évidemment, le diagnostic, enfin, il y a peut-être beaucoup de vieux dyslexiques qui n'ont jamais été diagnostiqués, mais maintenant, comme les méthodes de diagnostic sont plus raffinées,
oui.
on attrape beaucoup de gens qui seraient probablement restés analphabètes sinon et qui maintenant vont avoir accès au récit, à la narration parce qu'ils sont diagnostiqués. Qu'ils ont accès à cette collection.
Bon, alors, donc, il y a ces gens-là. Au niveau, alors, de la faiblesse de la vue, de la défaillance visuelle, dès l'instant qu'on ne peut plus lire
facilement
avec
voilà.
ses yeux, on a accès. Alors, ça veut dire, évidemment, pour ceux qui sont aveugles de naissance, mais ceux qui deviennent aveugles oui. suite à
ou
des maladies.
Des pertes de qualité de la vision aussi,
ah,
c'est
voilà.
ça.
Voilà, c'était là que je voulais en venir.
Il y a plusieurs niveaux, effectivement. Il y a aussi, ça peut être aussi un handicap physique qui vous empêche physiquement
de lire,
de manipuler
ça.
Un livre ou de le, ça peut être ça aussi.
Est-ce que ça peut être momentané, par exemple, une personne qui subit un accident de voiture et qui passe un an de sa vie, je ne sais
oui.
pas, moi je vous dis
oui,
quelque
oui,
chose,
oui.
plâtré au fond
Nous,
d'un
en
hôpital
fait,
ou...
Voilà, à partir du moment où on a une preuve d'un professionnel de la santé, ce n'est pas nécessairement un médecin, parce que les orthopédagogues, par exemple, dans le cas de la dyslexie, sont habilités à faire une recommandation. Dès qu'on a une recommandation qui dit cette personne devrait avoir accès aux collections adaptées, eh bien, on donne l'accès. Et effectivement, dans le cas de quelque chose de temporaire, bien, tout simplement, si le médecin dit on prévoit une perte de vision d'environ
D'accord.
6 mois, bien, on fera un abonnement pour 6 mois, puis au bout
D'accord.
de 6 mois, on verra si la personne peut
D'accord.
de nouveau...
OK.
Voilà.
Je comprends. Et les personnes âgées?
Oui.
Parce qu'il y a tellement de gens seuls. Non, mais c'est vrai. Hein, parce que moi, j'imagine que vous-même, c'est pareil, vous qui travaillez là, il y a tellement de gens qui ignorent finalement qu'ils pourraient avoir accès
oui.
à cela.
Oui.
Et qui nous disent, d'ailleurs en ce moment, dans le cadre de la tournée Relire, dont on vous a peut-être parlé ici, mais c'est fantastique, mais ça va changer ma vie. Quoi.
Mmh.
Et,
mmh.
Alors, est-ce que...
Ce qu'on réalise, effectivement, c'est qu'il y a une méconnaissance de la largesse de l'accessibilité, du fait que vraiment, on n'a pas besoin d'être complètement aveugle pour y accéder
Bien
à
sûr.
Ça. Et aussi du fait qu'il y a plusieurs autres types de ressources qui sont tout à fait accessibles. C'est-à-dire que, oui, il y a toutes les collections du SQLA, mais il y a aussi les livres sonores de la collection générale que tout le monde peut emprunter.
Oui.
Je veux dire, moi, je vois, mais des fois, j'ai juste pas le temps et j'écoute.
Exactement.
Bon.
Oui, oui.
Il y a ça qui est aussi accessible aux gens qui ont des défaillances perceptuelles. Et il y a de plus en plus, donc, on essaie de plus en plus d'arrimer finalement toute l'offre. Il y a aussi, par exemple, dans le livre numérique, de plus en plus de livres numériques offrent des possibilités d'avoir une synthèse vocale. Donc, parfois, ça peut être pratique si c'est juste, je ne sais pas, un chapitre de manuel,
oui,
un truc,
oui,
vraiment
oui.
une recette, par exemple.
Oui,
donc,
oui,
je
oui,
dire,
tout à fait.
On n'a pas dans le SQLA des tonnes de livres de recettes, mais s'il y a la synthèse vocale en version numérique, tout à coup, c'est pratique.
Exactement.
Voilà. Donc, c'est ce genre d'outils-là
D'accord.
qu'on veut faire connaître de plus en plus.
Est-ce que vous savez, je ne sais pas, hein. Est-ce que vous savez quelle est la proportion de livres numériques qui sont donc téléchargés? Parce que, bon, moi, je parle souvent pour les non-voyants parce qu'ici, on travaille un peu plus spécifiquement pour ces personnes-là. Il y en a quand même beaucoup qui sont branchés sur Internet
mm-hmm.
et il y en a quand même qui n'y sont toujours pas. Ces
oui.
gens-là utilisent donc, j'imagine, encore le petit procédé Victor, là, avec la petite machine et puis le CD. Est-ce qu'on sait le pourcentage de gens qui... qui prennent des livres numériques, donc qui sont téléchargés, ou ceux qui utilisent nos collections, encore les CD.
Il y a des collections téléchargeables, donc
oui,
adaptées.
C'est ça.
Oui, effectivement. C'est en croissance.
Oui.
Le rapport exact, Sylvie,
on ne sait pas, non, on ne sait pas exactement. Mais,
c'est souvent mixte,
mais pour
en
l'instant,
fait.
C'est souvent le CD encore. Ça veut dire que ça, je voudrais que vous expliquiez comment ça se passe peut-être à des gens qui nous écouteraient en ce moment et qui ne sauraient pas exactement comment faire. Comment on fait, Sylvie Fouquereau, pour arriver au SQLA okay. et pouvoir utiliser ces livres-là?
Alors, une fois que vous avez complété notre formulaire d'inscription qui est disponible sur Internet,
d'accord.
où vous pouvez venir le récupérer directement
ou
à la
on peut
bibliothèque,
téléphoner.
Vous pouvez téléphoner,
d'accord.
vous pouvez nous le demander. Vous devez joindre à ça une attestation d'un professionnel qui confirme votre incapacité à avoir accès à l'imprimé.
Mm-hmm.
Et bien, à partir de ce moment-là, vous nous retournez le tout, on ouvre un dossier.
Simplement par la poste,
avec vous.
Comme ça?
Tout à fait.
D'accord.
Un dossier est ouvert par la suite et on communique avec vous pour vous donner les informations, les durées de prêt, la possibilité de renouveler, comment vous allez recevoir, dans quel format vous allez recevoir ça par la poste,
okay.
parce que c'est posté gratuitement à travers le Québec. Comment fonctionner ouais. pour nous retourner nos titres ouais. aussi.
Et la petite machine, Victor, alors
et
ils l'ont comment?
Et pour ce qui est des appareils, eh bien, ouais. là, c'est particulier tout simplement pour les personnes inscrites à des centres de réadaptation pour personnes non-voyantes.
D'accord.
Ces personnes-là, l'appareil de lecture vont leur être attribué gratuitement.
D'accord.
Pour toute autre personne qui souffre d'un autre handicap, ils devront soit acheter un appareil Victor
mm-hmm.
ou encore, s'ils ont un équipement informatique, ça va être de télécharger
voilà.
un logiciel adapté
voilà.
qu'on appelle pour le qui est compatible avec le format d'enregistrement qui est le format DIS.
D'accord. Bon, on sait qu'au Québec, encore une fois, je parle peut-être pas mal pour la non-voyance, mais on sait qu'il y a à peu près 300 000 personnes hein, qui sont en difficulté de lecture. On peut calculer combien de personnes en ce moment... Est-ce que vous savez combien de personnes en ce moment profitent du service québécois du livre adapté en gros? Est-ce qu'on sait ça?
On est à quelques dizaines de milliers de personnes.
À quelques dizaines de milliers
oui.
de personnes.
Oui.
Alors,
oui.
moi, je me posais une question. Je me disais, comment Canal M, qui fait déjà beaucoup de choses, hein, pour parler de vous, pour parler des livres, bon, vous l'avez vu, vous savez qu'il y a des bénévoles chez Vues et Voix, mais il y a aussi beaucoup de bénévoles ici même, à la radio, mm-hmm. qui travaillent aussi. Je me disais, comment on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait avoir un objectif, peut-être, pour aller en chercher d'autres, pour qui pourraient profiter de cet outil merveilleux qui est le vôtre? Comment on pourrait faire, d'après vous, Chloé? Bonne question.
Ce que je peux vous dire, c'est que là, on a quelques événements qui s'en viennent où on va effectivement parler, ouvrir justement, montrer que ça peut être accessible à plus de gens qu'on le croit.
Oui, c'est ça.
Il y a eu, au début novembre, à la Grande Bibliothèque, va se tenir une foire numérique où on va vraiment exposer toutes les ressources numériques pour tout le monde, là,
okay.
de la Grande Bibliothèque, archives, collections, etc. Et il y aura un kiosque qui montrera tous les outils d'accessibilité qui sont disponibles en ligne, y compris donc les livres adaptés.
Ah, okay.
Il y a ça, il y a aussi au Salon du livre de Québec où nous serons présents pour en parler. Donc ça, c'est au printemps.
OK, OK, OK.
Et puis sinon, bien, déjà, votre émission fait beaucoup.
Oui, ben c'est ça, oui, oui. Mais vous savez, nous, on voudrait encore en faire plus. Bon,
oui.
on sait que c'est pas toujours facile, on se le cachera pas, on n'a pas des gros moyens publicitaires, on n'a pas
non.
tout ça. Alors, ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Alors,
beaucoup.
C'est pour ça que ça faisait partie, moi, des questions que je m'étais dit. Comment? C'est parce que moi, je suis comme ça. Qu'est-ce que vous voulez?
Ben, une autre chose qu'on commence à faire de plus en plus avec la nouvelle structure, beaucoup la façon dont on intègre les services
oui.
adaptés au sein de la Grande Bibliothèque, c'est de s'assurer, bon, vous disiez, je suis accueil et prêt,
oui.
c'est tous les services de première ligne. Moi, je
oui.
veux que, par exemple, quand quelqu'un vient s'abonner, qu'on lui en parle et qu'il dise tout d'un coup, ah, mais moi, j'ai ma mère qui commence
Exactement.
La dégénérescence maculaire ou ma tante. Ou... Parce que il faut pas prendre pour acquis qu'il faut attendre d'avoir devant soi quelqu'un qui en a besoin.
C'est ça.
Il faut vraiment exposer les services.
À commencer par nous-mêmes.
Ben oui, exactement.
Ben, voilà. et on n'arrête pas ici de nous demander forcément, mais qui décide des livres? Est-ce que c'est vous qui décidez des livres? Puis on dit non, c'est pas nous. Mais alors, on va demander aux gens du SQLA. Alors, est-ce que ce sont les usagers qui vous passent des commandes? Comment ça se passe?
Ce sont d'abord des bibliothécaires. Il y a deux bibliothécaires qui travaillent au service adapté.
OK.
La sélection, le développement de collections, c'est une spécialité des bibliothécaires. Elles partent des sélections qui sont faites pour la collection générale.
D'accord.
et voient lesquelles doivent être adaptées par leur connaissance, leur expertise. Et on prend aussi, bien sûr, des oui. suggestions.
On invite régulièrement les gens à nous communiquer justement des suggestions.
Et le font?
Ah oh, oui, régulièrement.
Oui, régulièrement. Est-ce que vous avez des commentaires aussi? Négatif ou positif.
Des très bons commentaires.
Oui, mais
notre clientèle, est-ce oui. que là, c'est du gâteau? Nous, à la réponse téléphonique, on a le lien direct avec le client. Et puis, des témoignages d'appréciation, c'est quasi au quotidien. Pour certaines personnes, ils vont nous dire, mon dos, c'est... J'ai quelqu'un hier, justement, qui me disait, c'est le garçon qui appelait pour son père commander des livres. Puis il dit, vous savez, madame, il dit... Les livres, là, c'est comme un membre de notre famille.
Mais oui.
C'est comme un petit frère, une petite sœur qui arrive pour mon père. Il est tellement heureux. C'est pratiquement vital et c'est étonnant le niveau de satisfaction et l'importance aussi de ces CD-là qui arrivent chez les personnes. Ça fait un beau loisir. C'est inclusif aussi. Souvent, nous, on va se retrouver au restaurant ou entre amis lors d'un souper. Puis combien de fois il y a quelqu'un qui va lancer comme ça... As-tu lu tel livre? Ah, c'est bon. Bien, ça permet à notre clientèle aussi de participer à cette discussion-là,
bien
d'être
sûr.
Au même niveau. C'est inclusif.
Bien oui, c'est certain.
Oui.
Et puis, il ne nous reste plus que 2 minutes. Vous rendez-vous compte comment ça passe vite, on le sait, en radio. On a énormément parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui nous disent préférer la voix humaine. Hein, les voix humaines. Oui. Il y en a d'autres qui préfèrent carrément les voix de synthèse. Mm-hmm. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Est-ce qu'il y a beaucoup de livres en ce moment qui sont produits avec la voix de synthèse?
On a fait un projet pilote, on a testé beaucoup pour justement voir quel type de document plaisait plus en voix de synthèse, quelle était la demande. Donc, on a identifié vraiment les types de documents qui sont plus propices à être appréciés par nos usagers en voix de synthèse. Et c'est effectivement quelque chose vers lequel on va aller pour certains documents, pour répondre à une demande particulière.
D'accord, d'accord. Écoutez, c'est la dernière minute maintenant que nous avons ensemble. Je voudrais la passer d'une part à vous remercier, puis peut-être à nous demander là, à court terme, quels sont les projets? Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger en ce moment?
Oui, il faut augmenter effectivement l'offre en téléchargement, que ce soit braille ou audio. Faire connaître davantage l'offre pour justement les gens qui souffrent de dyslexie, ça c'est certain. Et faire connaître les services, vraiment, tous les outils d'accessibilité qui sont là dans les collections.
Et si on peut vous aider à Canal M, ça nous fera vraiment plaisir. Non, mais vraiment, n'hésitez pas. Puis je sais que ça peut être un échange. Moi, je vois déjà une grande bannière, tu sais, dans BNQ. Écoutez, Canal M! Non, merci beaucoup, Chloé Barry. Merci beaucoup,
merci.
Sylvie Fouquereau. Merci. Au revoir. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Ça, c'est une petite musique qui nous annonce que nous avons une autre visite en studio aujourd'hui. C'est celle de Gérard Cyr. Bonjour, Gérard.
Bonjour, Clotilde.
Gérard, lecteur, ici, bénévole chez Vues et Voix. Gérard, vous nous arrivez non pas avec un livre, mais avec 2 livres.
Oui, un léger et un peu plus lourd.
On commence par lequel? Le léger?
C'est pour toi.
Le léger, oui.
Le léger, oui,
allez,
d'accord.
On y va. D'accord.
Okay.
Alors, c'est lequel?
Alors, c'est Walmart, journal d'un associé. Hugo Meunier.
Léger,
c'est léger. C'est léger, ça, Walmart? Ben, ça dépend. Oui. Avec Hugo Meunier, c'est léger.
Oui.
Oui, c'est quand même léger. C'est ça. Hugo Meunier, qui est journaliste à la presse, en 2012, a commencé à faire des rubriques sur Walmart. Il s'est infiltré chez Walmart, en fait. Oui. Il se fait engager. Et puis, il est allé travailler à la succursale de Saint-Léonard.
OK.
Dans le but, non pas de démolir Walmart, mais de voir le fonctionnement, comment ça fonctionne, puis d'un point de vue social, si on veut.
C'est ça, oui, oui.
Donc, il a voulu se rapprocher des employés et puis comprendre comment ils se sentaient là-dedans, comment ça fonctionnait. Naturellement, c'est assez... En tout cas, de la façon que c'est raconté par Hugo, c'est assez rigolo. Je dirais même que c'est de l'autodérision parce que, disons que... Ce qu'il raconte, parfois, on trouve que c'est un petit peu infantilisant. Ou, tu sais, la méthode américaine. Là,
oui, oui, avec les cris de ralliement.
Les cris de ralliement. Ça, donnez-moi un W, donnez-moi un A, W, bon,
ah,
etc.
Oui, là. Ah là là.
Oui.
Non, puis quand même, on leur on leur presse le citron.
Ah, c'est pompé, c'est pompé.
C'est, hein, c'est wow, ça, wow, c'est comme ça. Puis le, oh, en tout cas, c'est parce que lui, il dit, quand ils m'ont demandé ça, puis qu'ils m'ont dit c'est pour un essai, hein, il ouais, a dit fou, 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 un essai. Moi, pour moi, essai égale livre qui ne se lira pas. Alors, c'est pour ça aussi qu'il un a peu voulu. Non, mais en tout cas, lui, c'était ce qu'il dit, mais oui, il dit là, c'est pour ça qu'il a voulu en faire quelque chose d'un peu plus vivant. Et d'ailleurs, et j'aimerais que vous me le confirmiez, ouais, on dit que l'écriture est vraiment, c'est un récit très rythmé, très
ah,
vif.
Ah oui, c'est très rythmé,
on
c'est,
s'ennuie
c'est
pas.
C'est léger. C'est ça, le sujet pourrait être lourd, mais il ne l'est pas dans l'écriture d'Hugo.
Non, c'est ça. C'est 100, combien? 160,
180 à peu
oui,
près.
Oui, à peu près. Donc, ça se lit assez rapidement.
Oui.
Et ça s'écoute assez rapidement aussi. Lui, finalement, son constat, c'est que ce n'est pas si pire, non?
Ce n'est pas si pire, mais tu sais, il faut faire attention avec les termes. Par exemple, il parle du terme associé, un associé
oui,
chez
oui,
Walmart.
Oui,
un
oui,
associé.
Oui.
Bon, Walmart propose à ses employés de pour chaque dollar que l'employé verse, oui, Walmart ajoute 15 cents et là, ça devient une action. Mais il n'y a aucun employé qui a les moyens de faire ça parce qu'ils sont au salaire minimum.
Ah, c'est ça.
60% des employés de Walmart, selon une étude, sont sous le seuil de la pauvreté.
Autrement dit, ils ne peuvent pas abandonner, ben oui.
Ils ne peuvent pas vraiment.
Bien sûr.
Ils ne peuvent pas. Oh. Donc, c'est un faux concept, l'association.
Ouais.
Hein,
ouais.
C'est...
J'ai lu aussi quelque part, d'ailleurs, qu'il avait dit, Hugo Meunier, que ça avait été une grande leçon d'humilité pour
oh,
lui.
Oh que oui, oh que oui.
Je vous propose de vous entendre, d'ailleurs, dans un extrait de ce livre-là, dont je vous rappelle le nom, Walmart, le journal d'un associé d'Hugo Meunier, lu par Gérard Cyr.
Chez Walmart, il n'est pas rare que la cohue du Boxing Day ou du Black Friday vire pratiquement à l'émeute, comme en témoignent de nombreuses vidéos accessibles sur YouTube. En attendant le coup d'envoi de ce chaos socialement acceptable, François, le grand patron du magasin, fait les 100 pas, nerveux. La pression semble lui écraser les épaules. Les préparatifs doivent être parfaits. 2 minutes avant l'ouverture, nous avons les yeux rivés sur les portes contre lesquelles s'aplatissent les corps fébriles de la clientèle. Je pense au Garfield d'Aventouse qui décorait jadis la lunette arrière des voitures, mais je pense aussi à The Walking Dead. Les portes s'ouvrent enfin. Les clients entrent en trombe, certains engagent même un sprint. Une gérante répète d'une voix forte mais monocorde un mantra qu'elle accompagne de mouvements mécaniques du bras. Électronique par là, électronique par là. La foule se montre docile malgré le désordre et la précipitation. Elle suit la direction indiquée et s'engage dans une allée délimitée par des cordons de sécurité. Le rayon de l'électronique se remplit aussi rapidement qu'une pataugeoire montréalaise les jours de canicule. Des agents de sécurité veillent au grain et filtrent l'accès. Le magasin grouille d'acheteurs. À peine 15 minutes se sont écoulées depuis l'ouverture que l'interphone annonce un premier enfant perdu.
Alors, je rappelle le titre de ce livre proposé aujourd'hui par son lecteur, Gérard Cyr. Ça s'appelle « Walmart, journal d'un associé » par Hugo Meunier. Dans quelques secondes, on va parler d'un livre beaucoup plus sombre, beaucoup plus douloureux, mais je pense qu'il était utile qu'on
oh oui,
sorte un livre comme celui-ci. Ce livre de Goethe à Lee, je voudrais vous l'épeler pour que ça vous soit plus facile peut-être à trouver. Goethe, G-O-T-Z et Ali, c'est A-L-Y. Ce livre s'appelle « Les anormaux ».
Oui.
Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre-là?
En sous-titre, « Les meurtres par euthanasie en Allemagne de 1939-1945 », sauf qu'on parle ici d'euthanasie d'Allemands par des Allemands. Donc, on est plus dans la Shoah, là, on n'est plus dans l'extermination
non, non,
des Juifs, on est dans l'extermination d'Allemands.
Mais alors,
ces Allemands qui sont des handicapés.
Ah, OK, d'accord.
Ils sont des handicapés qui sont des gens malades mentalement ou physiquement, des personnes âgées, des délinquants, des inaptes au travail. Il y a un plan qui est décidé durant l'été 1939, à peine quelques semaines avant l'invasion de la Pologne.
Mm-hmm.
Ce plan s'appelle Action T4. Et tout ça, c'est dans le but, il y a deux buts en fait. Économiser de l'argent, parce que ça coûte cher à l'État d'entretenir des gens malades.
Là là, des personnes handicapées.
Oui, oui, oui. Et aussi, on va dire, comment je pourrais dire ça? Les familles qui ont des enfants handicapés ont beaucoup de problèmes à s'occuper d'eux. Mm-hmm. Donc, on fait du ménage, quoi.
OK.
Et aussi, c'est pour purifier...
La race.
On l'a entendu souvent, ça. Hein? La race aryenne, c'est de l'eugénisme. On décide d'avoir une race parfaite. Souviens-toi des Jeux olympiques de Berlin en 1936. Hein? Et puis les jeunesses hitlériennes.
Oui,
on veut que ce soit un peuple en santé, fort, pur, etc., etc.
Oui, oui.
Et c'est épouvantable ce qu'on utilise comme moyen pour...
Oui, parce que là, tout est dit crûment, c'est-à-dire...
C'est cru, mais c'est pas romancé du tout. Hein. Ce ne sont que des faits, des témoignages, les documents aussi qui ont été retrouvés dans les archives. Mais les témoignages sont particulièrement touchants parce que c'est vrai, ce sont de vrais témoignages, soit de victimes, soit de parents ou amis de victimes. Et on raconte...
Parce que les victimes, si elles ont été assassinées, ce sont...
Souvent, ce sont souvent des enfants, beaucoup d'enfants.
Oui, mais qui ne sont pas décédés. Oui,
mais il y en a. Oui, on a des lettres écrites par des enfants avant.
OK, d'accord.
Okay. Avant le décès. Okay. Mais ces enfants-là ont été gazés.
Oh là.
On leur a injecté d'ailleurs des médicaments. On leur a donné la pneumonie. On leur a injecté la pneumonie exprès. Alors, sur le certificat de décès, c'est écrit mort de pneumonie. Hein?
On peut dénombrer combien de victimes à peu
Environ 200 000 durant cette période, de 1939 à 1945. C'est épouvantable.
Et ce sont des médecins qui...
Ce sont des médecins, infirmières, les politiciens naturellement qui ont mis ce plan-là, les parents, parce que les parents, il y en a que ça faisait leur affaire de se débarrasser de leurs enfants
Bien
malades.
Sûr.
Non, c'est épouvantable. Je ne conseille pas ce livre-là à quelqu'un qui a les bleus. Là,
Non. Ça, c'est clair. Mais pour quelqu'un qui est passionné d'histoire...
Si vous avez soif de vérité, là, c'est direct. C'est
passionné très d'histoire vraie. Je vous propose aussi un extrait de ce livre-là, lu par vous, « Les anormaux » de Goetz Ali.
Les militants politiques qui s'engageaient dans les années 20 en faveur de l'aide à mourir, de la mort humanisée ou de la douce délivrance... étaient très souvent également ceux qui s'élevaient contre la peine de mort et l'interdiction d'avorter, réclamaient des droits pour les femmes, amendaient la perception négative du suicide pour le faire apparaître comme une mort librement et individuellement choisie, souhaitaient faciliter les divorces et, de manière plus générale, luttaient pour la libéralisation des mœurs. Il n'était pas rare de voir les mêmes réformateurs prôner la stérilisation des personnes handicapées, certes, à titre volontaire, mais ce volontariat intégrait notamment l'accord des titulaires de l'autorité parentale ou des tuteurs légaux. Le meurtre d'enfants handicapés ne reçut dans les années 20 qu'exceptionnellement l'appui des réformateurs socio-allemands, qui apportèrent en revanche leur soutien à la prévention, comprise dans le sens d'avortements motivés par des considérations eugéniques. Ils agissaient de la sorte au nom du progrès social et d'un bonheur qui n'était plus guère conçu que comme terrestre. D'autres pays furent également le théâtre de ce genre de débat et du changement de valeur qu'ils impliquent, mais nulle part ailleurs les conséquences ne furent aussi radicales qu'en Allemagne.
Oui, un livre très dur, mais très utile, hein, si vous vous intéressez, entre autres, à la Deuxième Guerre mondiale, « Les anormaux » de Goetz Ali, Ali A-L-Y. C'est un livre qui est maintenant disponible, lu, vous l'avez entendu, par Gérard Cyr. Merci beaucoup, Gérard, d'être venu.
Ça me fait plaisir.
Au plaisir de vous réentendre.
À la prochaine, Clotilde.
À la prochaine. Nul doute que la semaine prochaine, avec Mme Edith Butler, il ne sera vraiment pas question de sujets comme celui que nous venons de traiter. Mais c'est ça qui est intéressant en littérature, c'est que ça nous amène vraiment dans toutes les sphères des sentiments et des émotions. Alors, Edith Butler, la fille de Paquetteville, Lise Aubu, qui est son agente depuis 40 ans, l'a accompagnée partout pour écrire. Finalement, ce livre qui est un hymne à cette femme globe-trotter, nous dit-on, aux racines bien ancrées dans son Acadie natale, cette femme de nature et de culture, chanteuse engagée qui a longtemps souffert de son image de fille de party. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas commencé en vous disant que c'était une fille de party et je ne le ferai Sûrement pas la semaine prochaine quand elle va venir. Parce que, bon, évidemment, c'est une fille qui est foncièrement éprise de liberté. C'est une raconteuse habitée par la joie de vivre typique de ses ancêtres. Mais elle est aussi sujette, comme tout le monde, aux humeurs sombres propres à sa lignée. Lise Aubut qui dit raconter Edith Butler, c'est peindre un monde d'extrême, de la timidité à la célébrité, du silence à l'affirmation de soi, du folklore à la modernité. C'est côtoyer les plus grands noms de la musique et faire le tour du monde à une époque où l'on ne s'y aventurait pas. Alors ce livre teinté de poésie, d'humour et d'émotion retrace l'histoire phénoménale de la grande dame de la musique acadienne en donnant vie à son univers plus grand que nature. Je vais donc recevoir la semaine prochaine Edith Butler et Lise Aubut, celle qui a écrit, rédigé le bouquin. Et je vous propose, en préambule, je vous propose d'écouter un reportage qui a été fait au moment du lancement du livre d'Edith Butler. On y reconnaît les voix d'Antonine Maillet, de Mouffe, de Marie-Denise Pelletier, de Bernard Landry et d'autres. On écoute ça.
Jusqu'à maintenant, ils me voyaient plus comme une fille de party. Et puis, je ne suis pas vraiment une fille de party, je suis une fille de profondeur. Et Lise a été capable de capter mon âme, mon cœur et d'écrire ça. C'est elle qui a exprimé l'intérieur, ce que je voulais dire au monde, vraiment. La beauté du monde. Et elle a réussi à vraiment écrire mes sentiments profonds, comme si c'est moi qui l'écris.
Bien, j'ai procédé à partir de souvenirs qu'elle m'a racontés au cours de 41 ans de tournée ensemble. Et quand j'ai voulu écrire, j'ouvrais mon ordinateur, je m'oubliais et je me mettais dans sa tête et j'essayais de revivre ces souvenirs-là. Et c'est ça qui alimentait ma plume.
Elle a cherché beaucoup dans sa tête aussi. Quand elle n'était pas trop sûre des histoires, bien, on lisait un bout. Puis je disais, ben t'as oublié telle chose. Et on se réajustait à chacune des histoires. Mais elle a fouillé beaucoup dans sa tête. Puis elle a parlé avec ma parenté, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes amis.
J'ai écrit beaucoup de chansons. Les chansons, c'est plus court. J'en ai fait 250. Mais une chanson, déjà, on peut se mettre à la place de quelqu'un d'autre pour lui écrire des paroles. Et donc, cette expérience-là m'a beaucoup servi pour écrire ce livre.
Edith Butler, avant tout, si elle a une carrière de chanteuse, c'est parce qu'elle a eu une belle vie. C'est extraordinaire. Vous savez, elle a eu toutes sortes de problèmes, comme tout le monde. Mais chaque fois qu'Edith était face à une difficulté, elle la transformait en chanson.
Elle est vraie, Edith. Elle est comme elle est sur scène, elle est chez elle, dans la vie, avec ses amis. Et moi, ça fait de nombreuses années que je la côtoie. J'ai eu le plaisir de travailler avec elle et je l'ai vue. Toujours Edith, toujours la même personne.
C'est un peu un modèle parce que quand je la regarde sur scène, ça me donne comment je pourrais dire ça, ce goût de continuer encore longtemps.
Elle a un humour extraordinaire, mais elle a la passion au cœur, elle aime ce métier. Et c'est sûr que pour les gens qui... Tiens, je fais le même métier qu'elle, fait que c'est sûr qu'elle a été... emblème quand j'étais petite. Je ne pensais pas qu'elle a été si importante pour son coin de pays que ça. Je savais pas qu'elle était... Je savais qu'on est toujours attaché à son coin de pays, mais je savais pas que ça avait été jusqu'au point de refuser de chanter en anglais par respect pour les gens de sa langue. C'est vraiment, mais vraiment une grande, grande, grande dame.
Moi, pour moi, d'abord, Edith Butler, c'est une amie avec laquelle j'ai eu tellement de plaisir que c'est sûr que c'est une artiste, que c'est une auteure, compositeur, qu'elle a fait des belles chansons, qu'elle a accompagné. On disait tantôt l'évolution de l'Acadie, mais l'évolution du Québec aussi.
Et la culture québécoise, c'est pas rien. Il rayonne dans le monde entier. 8 millions d'habitants peuvent avoir un tel rayonnement culturel. On peut être fiers de nous et avoir confiance. Et Edith incarne cela. En plus, elle est d'origine acadienne, ce qui n'est pas rien. Parce que ce peuple a vécu un crime contre l'humanité et il a survécu et elle incarne parfaitement cette survivance.
Parmi les autres voix, peut-être aurez-vous reconnu Michel Louvain, Lise Baudouin aussi, qui s'exprimait. Voilà donc au lancement du livre d'Edith Butler, qui s'appelle « La fille de Paquetteville », écrit ce livre par son agente Lise Aubu. Je vais donc recevoir ces deux femmes la semaine prochaine, ici même, en studio. Il y a deux semaines, on décernait le prix Nobel de littérature à Svetlana Alexievitch. J'ai voulu en savoir un petit peu plus sur cette auteure-là et surtout savoir ce que nous avions d'elle de disponible via le SQLA. Alors d'abord, qui est Madame Alexievitch? Elle est biélorusse. Elle est biélorusse, pardon. Oui, donc elle a remporté ce prix Nobel il y a deux semaines. Cette femme qui est journaliste, qui est écrivaine, qui a été récompensée pour, et là je cite, « son œuvre polyphonique, mémoriale de la souffrance et du courage à notre époque », a expliqué le jury. Svetlana Alexievitch, 67 ans, est née soviétique. Elle est la 14e femme à remporter le Nobel depuis sa création en 1901. Je viens de lui parler, a confié à la télévision publique SVT la secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise, Sara Danius, et elle n'a dit qu'un mot « fantastique ». Cette écrivaine, qui est l'auteur de livres poignants sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl notamment, ou encore la guerre d'Afghanistan, qui sont d'ailleurs toujours interdits dans son pays, qui ne lui pardonne pas le portrait d'un homo sovieticus incapable d'être libre. Aujourd'hui, l'Ukraine est un exemple pour tous, dit Madame Alexievitch. Ce désir de rompre complètement avec le passé est digne de respect, tout en craignant les conséquences du conflit meurtrier entre séparatistes pro-russes et forces ukrainiennes dans l'est du pays. Elle n'hésitait pas à dire ces mots-là. L'Ukraine est un exemple pour tous. Elle dit aussi, je pense que l'Empire n'a pas encore disparu et personnellement, j'ai le sentiment inquiétant qu'il ne disparaîtra pas sans que le sang coule. Après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, elle travaille pendant plus de 10 ans sur un livre bouleversant fait de témoignages de liquidateurs sur ce livre qui s'appelle « La supplication ». Ce livre est un livre bouleversant sur Tchernobyl, l'après Tchernobyl et ces milliers d'hommes qui ont été envoyés sur le site et d'autres victimes de ce drame. Ce livre aussi est tabou, interdit. Au Bélarus, l'un des pays les plus touchés par les conséquences de Tchernobyl, où le sujet lui-même est tabou. Sans surprise, Madame Alexievitch n'a en effet pas voix au chapitre dans ce pays qui est dirigé depuis 20 ans d'une main de fer par Alexandre Loukachenko. Ces livres qui, selon elle, ne plaisent pas au président sont introuvables dans les librairies au Bélarus. Nous vivons, dit-elle, sous une dictature. Des opposants sont en prison. La société a peur et en même temps, c'est une société de consommation vulgaire. Les gens ne s'intéressent pas à la politique. L'époque est mauvaise, déclara-t-elle en 2013 à l'AFP. Les intellectuels bélarusses apprécient moyennement les opinions de cet auteur qui, d'un côté, se réclame de la culture russe, quand eux cherchent à s'en démarquer, et de l'autre vit la plupart du temps en Europe occidentale, un monde pour lequel ils éprouvent un mélange d'attirance et de répulsion. Alors, je voulais vous faire savoir à tout prix que ce livre-là, cet incontournable-là, La Supplication, est disponible au SQLA, ce livre de Madame Svetlana Alexievitch, qui, je vous le rappelle, est le prix Nobel de littérature 2015. Un petit rappel, avant elle, l'an dernier, c'était Patrick Modiano qui avait reçu ce prix Nobel, et en 2013, c'était la Canadienne Alice Munro. Et puis, comme toujours, à la fin de cette émission des livres pleins les oreilles, il me fait plaisir de vous présenter quelques titres en rafale, quelques livres nouvellement parus en livre audio adapté et disponibles via l'USQLA, dont, je vous le rappelle, si des fois vous êtes arrivés en retard, nous recevions deux personnes du SQLA qui sont venues en première partie pour nous faire découvrir un petit peu plus les secrets de ce service québécois du livre adapté, service gratuit, faut-il le rappeler, auquel toute personne qui n'est plus en mesure de pouvoir lire a droit gratuitement. On ne le dira jamais assez. Alors, quelques titres en rafale. La deuxième vie d'Amy Archer de R.S. Demandez-moi pas quels sont ses prénoms. Pateman, P-A-T-E-M-A-N. Petit résumé, Amy, la fille de Beth, a disparu sans laisser de traces. Elle avait 10 ans. 10 ans plus tard, elle frappe à la porte. Et elle dit à sa mère qu'elle est revenue. Mais elle a toujours 10 ans. Déni du réel, manipulation, folie. Avec la deuxième vie d'Amy Archer, R.S. Pateman bouleverse tous les repères du lecteur et livre un puissant thriller psychologique. Il y a un lecteur, dont j'ai trouvé ça sur le site Babelio, qui dit lecture pas inintéressante, mais qui laisse un peu sur sa faim. Mais il y en a un autre qui dit un roman noir, la vérité est glaçante. La deuxième vie d'Amy Archer, de monsieur ou madame d'ailleurs, Pateman, P-A-T-E-M-A-N. Histoire d'un raisonneur suivie d'histoire policière, c'est de Fernando Pessoa. Nous sommes en Angleterre à la fin du 19e siècle avec William Byng qui se distingue par sa finesse à résoudre des intrigues sans bouger de son fauteuil. Femmes éplorées en quête d'explications ou officiers de police, nombreux sont ceux qui mettent les talents de cet ex-sergent et détective amateur à contribution, car ce raisonneur hors pair, fin psychologue et connaisseur des caractères humains, élabore argumentations et déductions qui s'avèrent infailliblement exactes. C'est le raisonnement du détective, dit-il, qui constitue l'intrigue de l'histoire policière. Alors, démonstration est faite avec ce personnage rêveur, philosophe, bon vivant et métaphysicien à ses heures, reflétant l'admiration que Fernando Pessoa portait à Edgar Allan Poe et à Arthur Conan Doyle. Ce recueil regroupe ainsi 4 histoires écrites en anglais à partir de 1906 et traduites bien évidemment pour vous. Histoire d'un raisonneur suivie d'histoire policière de Fernando Pessoa, P-E-S-S-O-A. Sans faire d'histoire, 2 points, anecdotes méconnues qui ont fait le Québec d'Anne de Léon. Écoutez, c'est un livre que j'ai entre les mains, qui est de facture déjà très, très intéressante, très documentée. De quoi s'agit-il? C'est un livre charmant, mais vraiment, c'est un livre délicieux. C'est un livre qui est plein de trouvailles, plein d'histoires méconnues du Québec. Certaines sont connues, mais d'autres sont méconnues, comme certaines, par exemple, cette histoire tragique lorsqu'il y a eu, en 1927, l'incendie au Laurier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Où il y a 70 enfants, me semble-t-il, qui ont trouvé la mort. Il y a d'autres histoires qui sont beaucoup plus cocasses, comme l'avenue d'Hitchcock à Québec, ou encore il y a des histoires surprenantes, comme la ville de Verdun qui interdit encore l'alcool bien après la prohibition. Et puis il y en a d'autres qui font dresser le poil sur les bras, je vous le dis tout de suite, lorsqu'on apprend qu'il existait notamment un camp de concentration en Abitibi en 1914, où l'on enfermait les ressortissants étrangers qui pouvaient représenter une menace potentielle pour le pays. Il me semble que, je ne sais pas, ça me résonne quelque chose en ce moment. Bref, ça, c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup accueillir à l'émission. Je vous rappelle son nom, c'est Anne de Léan, en 2 mots, D-E, Léan, L-E-A-N. Et je vous rappelle le titre du livre, « Sans faire d'histoire, anecdotes méconnues qui ont fait le Québec ». J'ose déranger. Ça, c'est signé Jocelyne Cazin. Oui, c'est un nom qui vous dit forcément quelque chose. Elle aussi, d'ailleurs, fait partie des gens que j'aimerais avoir un jour à l'émission. Et là, j'ai trouvé dans le magazine Le Bel Âge une entrevue qu'elle a donnée à Paul Toutant. Paul Toutant qui écrit « Des gens qui la rencontrent l'appellent encore Madame J.E. » Madame Je. Jocelyne Cazin a beau être retraitée de TVA depuis 2008. Elle a tellement marqué le petit écran pendant 35 ans que certains n'ont pas encore réalisé son absence. En lisant « J'ose déranger », dit Toutant, on est frappé par le besoin constant d'adrénaline qu'éprouve encore Jocelyne Cazin. Même si elle se dit sereine dans la vie, elle semble toujours accro à cette substance excitante sécrétée lors des moments de grand stress. Bon, parmi ses activités, parce qu'elle s'est calmée, quand même, le golf a pris une grande importance. Figurez-vous que même la journaliste a quitté Montréal pour une charmante petite ville des Laurentides, pas trop loin d'un 18 trous. Et d'ailleurs, en hiver, elle part en Floride aussi, pas très loin d'un 18 trous. C'est pour ça qu'on ne l'aura pas cet hiver, parce qu'elle s'en va. Mais c'est vraiment tout un personnage, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a écrit ce livre qui s'appelle « J'ose déranger ». Elle dit « Il faut que les gens se remettent à oser comme lorsqu'ils avaient 20 ans et qu'ils définissent le monde dans lequel ils veulent vivre leurs vieux jours ». Si jamais Jocelyne Cazin se lance en politique, ce qu'elle a fait finalement il n'y a pas si longtemps, elle pourrait avoir comme slogan, dit Paul Toutant, « Tout le monde bouge, tout le monde debout, osons déranger ». Allez, un petit dernier pour la route. « Mad Adam » de Margaret Atwood. Quand ce roman commence, la plus grande partie de la population de la Terre a été exterminée par une épidémie créée par l'homme, ou plus exactement par un certain Crack, qui avait décidé de sauver la planète en éliminant l'humanité et en la remplaçant par des créatures innocentes, herbivores et pacifistes, les Crackers. Ça vous donne le ton? Alors ne manquez pas, ça c'est une série, hein. C'est arrivé après Le Dernier Homme et Le Temps du Déluge, c'est pour compléter cette trilogie de Madame Margaret Atwood qu'on n'a plus besoin de présenter. Voilà ce qui met un terme à cette émission des Livres Pleins les Oreilles. Je remercie Chloé Barry, je remercie Sylvie Fouquereau du Service québécois du Livre Adapté, Gérard Cyr qui est venu en seconde partie, lecteur bénévole, Gérald Cousineau qui nous a aussi partagé sa lecture. Merci Mathieu Tessier, à la semaine prochaine et bonne lecture tout le monde. Salut !